Info Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 80 mai 2026. Vous écoutez Info Club Sandwich, votre quotidien d'actualité locale et associative sur Radio Campus Amiens, disponible sur le 87.7 FM en DAB+ et en réécoute sur radiocampusamiens.fr. Pour la musique du jour, la rédaction vous propose Cigarette Daydream de Caged Elephant et The Only Exception de Paramore. Pour la première partie de l'émission, on écoutera le reportage d'Aurélie et Mouna sur le Festival international des Jardins. Aujourd'hui, exceptionnellement, on a deux chroniques. Matteo à Cannes qui a fait sa chronique sur le Festival de Cannes et Sonia qui a assisté à un spectacle hier soir sur une pièce de théâtre, Les Femmes Savantes. Je vous laisse écouter le reportage d'Aurélie et Mouna.
Le Festival international de jardin, organisé par l'association Art et Jardin, commence ce vendredi 22 mai aux Ortillonnages d'Amiens. Jusqu'au 11 octobre, vous pourrez admirer une cinquantaine d'œuvres d'art sur l'île aux Fagots et à Camon. Avec Mouna, nous sommes allés sur place pour découvrir en avant-première deux créations. Mais d'abord, Nathalie Vallée, directrice de production et de projet artistique à l'association Art et Jardin Hauts-de-France, nous en dit un peu plus sur ce festival.
Donc, le Festival international de jardin existe depuis 17 ans. C'est la 17e édition cette année. Et on invite, via des appels à candidature, des paysagistes ou des plasticiens à investir des 10 îlots des ortillonnages, accessibles soit via un circuit en bateau, soit un deuxième circuit. Circuit à pied sur l'île aux Fagots.
Et c'est quoi le concept un peu de ce festival ?
Donc chaque année, en tout, on a une cinquantaine d'œuvres que les visiteurs peuvent découvrir, une douzaine de nouvelles créations chaque année. Il n'y a pas de thème particulier. On laisse chacun s'approprier les espaces si particuliers des ortillonnages, comme ils l'entendent. Donc ils font une note d'intention au départ, mais souvent quand ils visitent le site, leur projet évolue. Alors il y a des projets qui sont en lien avec les berges, il y a des projets qui traversent les questions de changement climatique. Il y a beaucoup de questions indirectes de réemploi de matériaux qui sont liées à l'histoire du site. C'est vraiment à chaque équipe artistique de traduire à travers son œuvre de ce qu'ils perçoivent de ce terrain de jeu géant. Donc les visiteurs peuvent venir, soit ils louent une barque pendant 2h30, hein, des barques en bois avec des moteurs électriques. On a une vingtaine de barques qui sont réservables sur Internet, donc ils réservent pour 2h30 de balade. Ou sinon, à pied, à l'île aux Fagots, et là, l'entrée est gratuite. Chaque année, on a de plus en plus de visiteurs. Il faut souvent réserver à l'avance, surtout quand il y a un rayon de soleil. Mais ça se fait assez facilement.
Comment s'est financé un peu ce festival ?
On a plusieurs financeurs. L'association elle-même développe des projets sur toute la région des Hauts-de-France. Donc, on a en fonctionnement pas mal de subventions de la région Hauts-de-France et spécifiquement sur le festival Amiens Métropole, bien sûr, le département et puis des mécènes privés. Puis l'État intervient aussi beaucoup puisque les œuvres sont entretenues par un atelier chantier d'insertion. Donc des gens qui sont en recherche d'emploi plus pérenne et qui travaillent ici sur 6 mois, 1 an et une très grosse partie de leurs indemnités sont prises en charge par l'État.
Et les œuvres, elles sont exposées pendant combien de temps ?
Alors les œuvres, on demande aux artistes de penser des œuvres qui tiennent à minima 6 mois. Certaines, évidemment, sont là. Il y en a même qui sont là depuis 17 ans. En fait, le comité artistique se réunit au mois d'octobre et décide des œuvres qui sont reconduites ou pas. Certaines, pour des questions de matérialité, les matériaux ne sont pas assez solides pour durer plus longtemps. Il y a des œuvres qui sont parfois ratées. Et puis, c'est vrai que les jardins, souvent, il y a un rapport au temps qui est différent. Donc, on aime bien aussi voir pousser les plantes, donner un peu de temps et ça permet aux autres visiteurs de les découvrir. Et si je dis oui, ça vous a fait sourire que des œuvres peuvent être ratées, et c'est pas grave pour nous. On est vraiment aussi dans une démarche d'expérimentation. Donc, les expériences, par définition, parfois ça rate et c'est pas grave. On n'a pas d'objectif esthétique ou de durée. On a peut-être des objectifs d'inventivité, d'arriver à faire un pas de côté pour découvrir différemment le paysage.
Et c'est quoi une œuvre ratée, comme vous dites? C'est un problème avec le matériel ou elle ne se tient pas ou c'est...
Ça peut être très subjectif ou très objectif, donc il n'y a, a pas de réponse. C'est comme une œuvre réussie, qu'est-ce que ça peut être ou qu'est-ce que c'est que le beau? Enfin, après, c'est... on tombe dans des débats philosophiques. Non, c'est très subjectif. Après, oui, d'une façon très pragmatique, il peut y avoir sur certaines installations des œuvres qui se dégradent, des matériaux qui se dégradent et qui peuvent devenir dangereux, par exemple. Donc oui, on les démonte.
Dernière question. Est-ce que les artistes sont rémunérés quand ils exposent leurs œuvres?
Oui, absolument. Il y a un budget pour de réalisation, pour réaliser les œuvres. Et puis, il y a une autre part budgétaire qui est liée à leurs honoraires, donc les honoraires de suivi de réalisation, et puis aussi ce qui s'appelle les droits de monstration. Donc, on leur demande l'autorisation de montrer leurs œuvres dans le domaine public, comme ça se fait beaucoup dans les arts plastiques, par exemple.
Sur une parcelle des Ortillonnages à Camon, les membres du collectif Épuis s'affairent pour finaliser leur œuvre. Né en août 2025, ce collectif regroupe une douzaine de personnes qui viennent de France, des Pays-Bas, d'Allemagne et de Tchéquie. Tobias Mlakiome, qui fait partie de l'équipe de conception avec Marie Beningoven et Philippe Schladek, nous présente le projet.
Alors notre œuvre, elle s'appelle « Le jardin nourrit le compost, le compost nourrit le jardin ». Et c'est du coup un espace que les visiteurs vont découvrir au début de leur découverte de l'étang de Clermont, qui est un des deux sites du festival. Et c'est complètement centré autour du thème du compost, donc de la terre végétale, qui est fruit du travail du sol. Et dans notre cas aussi, c'est, ça participe du coup à une relation très étroite entre un jardin d'ornement qui est autour d'un pavillon central et des bacs à compost au milieu qui voilà, montrent cet aspect de paysage travaillé par les maraîchers d'origine de ces paysages.
Et comment vous l'avez pensé quel est, c'est quoi son concept cette œuvre?
Alors nous on s'est inspiré carrément du lieu. Quand on était en face des candidatures, on a assez vite découvert que c'était un paysage assez artificiel qui demande beaucoup de main d'œuvre. Et nous en tant que concepteurs, on était tous les trois, moi, Philippe et Marie, impliqués depuis des années dans différents contexte de potager urbain ou des initiatives pareilles. Donc on a tous les trois assez d'expérience dans tout ce qui est jardin productif, jardin avec des herbes médicinales ou des légumes comestibles. Donc c'est ce qui s'est reflété aussi dans la palette qu'on a utilisée dans les jardins qui est autour du pavillon.
Une fois que du coup vous aurez planté toutes ces plantes et qu'elles auront poussé, est-ce qu'on pourra les prendre ou faut justement les laisser pour...
Oui, justement, bonne question. En fait, c'est quelque chose qu'on a développé au fur et à mesure du projet, mais on a décidé au final de réaliser un panier. On le voit à côté de la table dont le visiteur pourra se servir pour manger sur site et qui va être rempli par l'équipe d'entretien du jardin. Donc ils vont cueillir les végétaux, ce qui aide aussi à la repousse et à fortifier les jardins. Et il faut cueillir les fruits, les fleurs, évidemment. Et les visiteurs, ils pourront s'en servir. On a écrit sur un panneau, se servir d'une quantité raisonnable des fruits et légumes par personne. Après, on verra comment ça se passe. Ramener chez soi une partie du jardin et de le consommer.
Pour la réaliser, cette œuvre, vous avez mis à peu près combien de temps tous ensemble?
Alors pour cette œuvre, on a travaillé avec dans deux résidences de chantier, une au mois d'avril, en début d'avril, et là, en ce moment, on est à la fin de la deuxième pour finaliser les plantations. Donc au total, on a été 20 jours sur site environ. Dans des configurations différentes. Du coup, il y a plusieurs bénévoles qui sont venus nous aider, comme on est jusque trois. C'est un jardin qui demande quand même beaucoup de travail dans la phase de plantation, mais aussi de construction de l'architecture qu'il y a au milieu. Donc on s'est servi en fait d'un réseau plus large qui est notre collectif pour contribuer en fait à cette œuvre.
Et on est un peu dans un contexte où l'écologie, il y a quelques problèmes. Est-ce que du coup, dans votre démarche, il y a par exemple les matériaux, est-ce que vous avez fait en sorte de choisir des matériaux assez écologiques ou des trucs comme ça?
On travaille surtout avec du bois pour les structures et même pour le mobilier qui est dans le pavillon, on a utilisé que des matériaux qu'on a récupérés en fait du stock du festival, qui sont du coup issus d'œuvres des années dernières. C'était un peu l'idée aussi de voir avec ce qui est sur place. Après, tout l'élément un peu plus dessiné pour lequel on a commandé quand même les matériaux, c'est le pavillon au centre, parce que l'idée c'était qu'il contraste un peu avec cette ambiance un peu plus organique autour.
Est-ce que pendant la construction ou quand vous avez pensé votre œuvre, vous avez fait face à des contraintes ou des problèmes pour la réalisation?
Nous, on avait de l'expérience de chantier, aussi de réalisation d'architecture, mais on s'était pas attendu à une logistique quand même un peu contraignante par barque. Là, on est dans la deuxième de résidence, donc on a fait quand même l'habitude à faire beaucoup d'allers-retours avec des petites barques pour ramener les matériaux, mais au début c'était quand même quelque chose qui nous a un peu contraint ou qui nous a engagé d'une manière différente, je dirais. Mais ça fait partie de la beauté aussi du site.
Que c'est un peu pour ça aussi que vous avez choisi cette parcelle, parce qu'elle n'est pas très loin du stock, ou il y a d'autres raisons?
En fait, le festival, il nous a donné le choix entre plusieurs parcelles qui étaient libres cette année ou qui s'est libérée d'œuvres précédentes. Et on a choisi cette parcelle parce que ça a une géométrie qui rappelle un peu la parcelle type des maraîchers, des ortillons d'autour d'Amiens. C'est une parcelle assez rectangulaire, un peu droite, et on a aussi un lien visuel avec le village de Camon qui est juste derrière la berge. Donc on a l'impression quand même d'avoir choisi une parcelle qui représente un contexte plus large. Voilà.
Est-ce que le résultat final il correspond un peu à ce que vous avez pensé au tout départ, ou est-ce qu'il y a quelques changements?
Non, en général, je dirais que c'est ce qu'on avait prévu de réaliser. Je pense que par rapport au projet initial, on a même réalisé plus de mètres carrés de jardin par rapport à l'idée initiale. Et ce qui nous a engagé aussi à commander beaucoup de végétaux, de légumes pour le remplir. Mais au final, on est très content du résultat.
Pourquoi vous avez voulu participer avec le collectif à ce festival international des jardins?
Alors moi, j'ai découvert les festivals par des autres œuvres de l'année dernière qui étaient des artistes néerlandais. En fait, le focus l'année dernière, c'était en partie sur des œuvres des Pays-Bas, comme le festival était en partie aidé dans son financement par l'ambassade des Pays-Bas en France. Il y a des équipes qui m'ont inspiré, et puis je me suis renseigné sur le festival et j'ai découvert assez vite que, différemment d'autres festivals des jardins, c'est un événement qui est assez imbriqué dans son contexte. Les jardins, ils participent vraiment au paysage plus large. Et donc je pense que même avec nos œuvres, on peut contribuer à des réflexions et à un mouvement qui est plus large d'un jardin seulement, mais qui participe aux ortillonnages.
Comme vous dites, vous êtes paysagiste. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre métier?
Alors, le métier des paysagistes, c'est à la fois un métier de conception des espaces extérieurs. Donc, on peut penser à un milieu urbain, c'est des places ou des rues aménagées, ou même des parcs urbains. Et par contre, ça a aussi des échelles très différentes de ça, comme la conception des jardins et aussi la conception territoriale, donc planifier plutôt des stratégies territoriales et des tâches comme ça. Donc c'est un métier qui varie beaucoup dans ces tâches.
Pour terminer, nous avons rencontré Apolline Ducrot, artiste plasticienne spécialisée en sculpture. Elle vient de Dunkerque pour exposer son œuvre sur l'île aux fagots.
Ma pièce pour le festival des ortillonnages de cette année, c'est une pièce qui s'appelle Ortillonne, et donc c'est une colonne en panier, donc c'est des paniers qui sont en béton et en fer à béton, et qui en fait viennent rendre hommage au geste des ortillonnes qui sont sur les photos d'archives.
Et justement, c'était quoi ce geste qu'elle faisait?
Alors en fait, j'ai travaillé beaucoup à partir de photos d'archives du marché sur l'eau d'Amiens, donc beaucoup de photos du fond de la Somme, et aussi des cartes postales. Et donc c'est des images qu'on peut voir où ils sont en train de décharger les bateaux, donc sur le quai, et il y a beaucoup de paniers en osier qui sont empilés et qui commencent à former des tours autour d'elles. Donc je me suis inspirée un peu de ces postures, donc ces postures de matériaux pour en fait faire cette colonne. Alors les matériaux, du coup, c'est du béton et des fers à béton pour un petit clin d'œil à la tour Perret et aussi pour figer en fait des gestes. Donc des gestes, c'est souvent des déplacements de matériaux, etc. Donc des choses qui sont assez actives. Et là, l'idée, c'est de figer et un peu graver dans le marbre et rendre hommage en fait à ces Hortiennes qui ont été totalement invisibilisées. Et aussi, on en parle souvent, c'est qu'il y a beaucoup d'architectes masculins qui ont fait carrière et qui ont pu faire des édifices, et beaucoup moins de femmes qui ont pu en fait créer des choses. Donc là, c'est pour rendre hommage à tout ce qu'elles ont pu faire. Et le petit clin d'œil, c'est que j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a raconté aussi que dans mes pièces, il y a des fers à béton qui dépasse un peu comme les paniers quand on est en train de les tisser pour les gestes de la vannerie. Et on m'a raconté qu'en fait les Hortiennes, ils étaient obligés d'être avec une Hortienne pour pouvoir avoir un anneau d'amarrage pour garer leur bateau, parce qu'en fait c'est des anneaux qui se transmettent de mère en fille. Et du coup c'est des anneaux qui sont en acier, donc je trouve qu'il y avait du sens avec ma sculpture, donc voilà. Donc ça c'est un petit clin d'œil, je l'ai su après avoir pensé ma sculpture, mais c'est un truc où je me dis ah, trop bien, c'est trop cool. Voilà.
Et ça a pris combien de temps à peu près pour réaliser
Ça a pris pas mal de temps, pas mal d'heures, je dirais quelques mois, parce que j'y suis depuis janvier-février. Donc ça fait quelques mois que je travaille dessus. Et pour tout ce qui est coulage, ça a pris un mois et demi, deux mois.
Est-ce que tu as dû faire face à des problèmes ou des contraintes pendant la réalisation du projet ?
J'ai pas eu trop de soucis et de contraintes pour la réalisation du projet, parce que j'ai un très grand atelier avec un plateau béton, donc pour... porter les pièces qui font entre 65 kg et 100 kg, c'était assez simple. Mais par contre, sur le montage, on a eu pas mal de grêle et de pluie. Et donc des fois, il faut faire avec le terrain sur lequel on est.
Est-ce que c'est toi qui as choisi un peu la parcelle où ça va être exposé ? Et si oui, pourquoi ?
Oui, j'ai choisi cette parcelle-là parce que sur l'île au Fagot, il y avait pas mal de déchargements anciennement de légumes. Il y a encore quelques zones maraîchères, horticoles, et donc je trouvais que ça avait du sens avec mon projet d'être là, quoi.
Et est-ce que c'est la première fois que tu participes à ce festival ?
À ce festival, c'est la première fois. Sinon, j'ai fait d'autres pièces assez monumentales et dans l'espace public. Mais là, c'est la première fois que j'y participe à celui-là et que je viens faire quelque chose à Amiens.
Et qu'est-ce qui t'a inspiré, enfin, ou motivé pour venir ici ?
Alors, du coup, pour venir ici, c'est un appel à candidature. Donc, quand on est artiste, on fait un dossier, on postule avec une idée et aussi en montrant en fait les sculptures qu'on a fait avant, tout le travail qu'on a fait avant, etc. Et ce qui m'a motivé, en fait, c'était un peu l'expérience et le challenge du terrain et aussi de travailler. J'avais déjà vu ces photos d'archives plusieurs fois et j'avais envie de faire un travail par rapport à ça, donc je me suis dit là c'est le bon moment, ça colle bien avec le terrain, donc voilà.
Est-ce que le résultat final il correspond un peu à ce que tu avais en tête dès le départ ?
Il correspond un peu, mais pas tout, parce que je travaille beaucoup à partir de photos, comme je vous ai dit, et j'aurais bien voulu que les photos soient visibles, mais comme il va y avoir des parcours de médiation qui seront organisés, je vais donner les photos aux médiatrices pour que tout le monde puisse avoir les clés en main de comment j'ai pensé mon projet, et il y aura un petit cartel d'explication bien sûr, mais pour le moment, là on est en plein montage, ça se passe plutôt bien, et c'est un peu comme je l'ai imaginé, oui.
Qu'est-ce que tu espères que les visiteurs y ressentent ou comprennent quand ils viennent voir ton œuvre ?
Et j'aimerais bien qu'ils puissent retracer un peu l'histoire de ces photos et de pourquoi j'ai choisi les paniers en osier, et qu'ils puissent aussi être curieux et regarder les photos un peu comme moi, avec une idée sculpturale, avec ces empilements de paniers qui sont assez beaux et qui font penser à des colonnes dans l'espace. Et donc oui, qu'ils puissent regarder un peu le paysage et le paysage qui les entoure quotidiennement autrement, quoi.
Si vous souhaitez voir ces projets et de nombreux autres de vos propres yeux, venez vous promener à pied sur l'île au Fagot et embarque du côté de Camon du 22 mai au 11 octobre 2026. Toutes les informations sont à retrouver sur le site du festival. Did you stand there all alone? Oh, I cannot explain what's going down. I can see you standing next to me. In and out, somewhere else right now. You sigh, look away. I can see it clear as day. Close your eyes, so afraid. Hide behind that baby face. Do 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 do. You can drive. Oh.
now it seems like yesterday. As I recall, you were looking out of place, gathered up your things and slipped away. No time at all, I followed you into
d'écouter Cigarette Daydream de Caged Elephant, toujours sur Radio Campus Amiens 87.7 FM. Et maintenant, on écoute la chronique de Mathéo.
Je suis au Festival de Cannes pendant 4 jours, alors laisse-moi t'embarquer dans les films de la compétition officielle. Aujourd'hui, j'ai vu 3 films de 3 grands réalisateurs que j'admire. Le premier film que j'ai pu voir, c'est Histoire parallèle de l'Iranien Asghar Farhadi. C'est l'histoire de Sylvie, interprétée par Isabelle Huppert, qui est en panne d'inspi pour son roman. Alors pour retrouver des idées, elle va commencer à observer ses voisins par la fenêtre. J'adore ce réalisateur qu'on connaît notamment pour les chefs-d'œuvre Une séparation. Si tu l'as pas vu, je t'invite évidemment à le voir. Donc j'avais évidemment de très grosses attentes. Et comment me dire que ça a été une sacrée catastrophe. Le premier gros défaut du film, c'est sa durée. Enfin pas vraiment sa durée, j'ai rien contre les films longs. Son gros défaut en vrai, c'est son rythme. Le film, il est monotone à en crever. Il n'y a vraiment aucun effort qui est fait pour embarquer son spectateur. Il n'y a pas de musique, les acteurs ils sont mal dirigés, ils sont constamment sur la même tonalité, leurs dialogues ils sont épais, c'est impossible d'y croire. Et puis surtout, il n'y a aucune dramatisation dans ce récit. Et sur ce point, c'est vraiment un naufrage complet quand on connaît le réalisateur. Le drame, normalement, c'est sa spécialité. Il arrivait à enfermer ses spectateurs dans des dilemmes moraux qui sont impossibles et des engrenages infernaux, mais là, rien de tout ça. On navigue à vue dans une quasi-fresque qui n'est jamais vraiment capable de capter des enjeux émotionnels. Enfin bref, une catastrophe. Finalement, peut-être que le seul point positif de ce film, c'est qu'il me fait une bonne transition vers le deuxième, L'être aimé de Rodrigo Sorogoyen. C'est l'histoire d'un réalisateur qui est en froid avec sa fille depuis des années, et pour recoller les morceaux, il va lui demander de jouer dans son propre film. Parce que ce film, c'est un peu l'exact inverse d'Histoire parallèle. Là où dans le premier, le rythme était vraiment aux fraises, là le gars t'envoie une leçon de mise en scène dès l'ouverture du film. Un dialogue en chant contre chant de 15 minutes. 15 minutes. Et je peux vous promettre que vous les verrez pas passer. Parce qu'il serre son cadre au maximum sur les visages, il varie les valeurs de plan pour filmer son dialogue, il passe du champ contre champ à la caméra épaule, de la caméra épaule au champ contre champ, et ainsi de suite. Et puis il faut dire aussi qu'il a un talent immense pour écrire ses dialogues. Franchement, c'est avec quel genre de magie qu'on arrive à capturer l'attention du spectateur en parlant de panna cotta. Ce premier dialogue, c'est vraiment déjà un condensé de tout le film, et tout le reste est mis en scène avec une insolente maîtrise. Il est déjà dispo en salle, donc évidemment, je peux que vous conseiller d'aller le voir, c'est un super film. Et le dernier film, accrochez-vous, Hope, de Na Hong Jin. Là, je vais faire extrêmement court, la seule chose que je puisse vous dire, c'est quand il sortira, allez le voir sans rien connaître au film. Ne regardez ni bande-annonce, ni résumé. Juste quand il sort, allez-y, prenez votre claque, et ensuite vous pouvez rentrer chez vous. Allez, à bientôt.
Et maintenant, on écoute Sonia.
Hier soir, à la Comédie de Picardie, j'ai été voir Les Femmes Savantes de Molière, mis en scène par Christian Schiaretti. C'était du classique, une mise en scène simple, quatre chaises, une table, des costumes, pas de musique, pas beaucoup de jeux de lumière, mais les personnages et les textes ont suffi à nous faire rire et réfléchir. Les femmes savantes racontent l'histoire d'une famille bourgeoise divisée d'un côté par une femme, Philaminte, une sœur, Armande, et une tante, Bélise, toutes trois passionnées de grammaire, de poésie et de philosophie. Et d'un autre côté, un père, Chrysale, soumis par sa femme et épaulé par son frère, Ariste. Et au milieu, Henriette, qui est la prétendante de Clitandre, celui que son père veut pour elle, et Trissotin, celui que sa mère veut pour elle. Dans le foyer, c'est la femme qui décide et le mari qui obéit. Par exemple, celle-ci décide de virer Martine, la cuisinière, parce qu'elle a commis un énorme crime. Elle n'a pas volé de l'argent, ni été infidèle, non, elle ne conjugue pas les verbes comme eux. Voilà son crime, je parlons, je n'avons, pire encore, elle qualifie leur parler de jargon. Face à son obsession pour cette langue fondée sur la raison et le bel usage, selon la mère, elle veut un mari qui sait manier ce langage pour sa fille, donc Trissotin. Un faux poète, on l'apprend à la fin, qui invente, entre guillemets, des vers et qui rime en latin. Il leur présente même un ami qui sait rimer en grec et elles s'extasient toutes devant lui. Cette manière d'être à cheval ou de s'extasier sur la langue et le parler français m'a rappelé mes cours de sciences de la linguistique où on a appris qu'à une époque lointaine, il y avait plusieurs parlers, le picard, le gallo, le lorrain par exemple, et tout a été uniformisé pour le français, la langue parlée à la cour, avec l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, rendant le français obligatoire dans l'administration. Ou encore à l'Académie française qui, depuis sa création en 1635, se fait garante des règles de cette langue. Pour revenir à la pièce, la femme est présentée sous différentes facettes. Henriette est vue comme un objet qu'on refile en mariage à un homme. Philaminte pense être savante et supérieure à tout le monde alors qu'elle s'est faite avoir par un faux poète. Elle n'est pas toute seule d'ailleurs, elles se sont toutes les trois faites avoir. Enfin, Martine, en apparence, semble émancipée, mais elle prône un foyer où c'est le mari qui décide. Et elle n'est pas contre un époux qui la corrige physiquement si elle va un peu trop loin de temps en temps. Celle qui est passée pour libre et savante, donc la mère, est celle qui traite les autres comme des objets. Elle est libre mais ne pense même pas à la liberté de sa fille. Elle prend la servante comme un objet également en la virant pour une question de conjugaison. La comédie, satire du pédantisme et de la préciosité, démontre toute la complexité et les obsessions absurdes des personnages, tout en nous faisant rire.
Merci à tout le monde. Voilà, c'est déjà la fin de votre Info Club Sandwich. On se quitte en musique avec The Only Exception de Paramore. Merci de nous avoir écoutés et à demain sur Radio Campus.
And my mama swore that she would never let herself forget. And that was the day that I promised I'd never sing of love if it does not exist. But darling, you are the only exception. Straight face.